L'émission du Fictionnaire avec en direct de Bruxelles. Émilie Hermant, merci beaucoup d'être avec nous au téléphone.
Bonsoir Dominique,
allô,
bonsoir à tout le monde.
Est-ce que vous nous entendez?
Oui, très bien.
Émilie.
Très bien.
Allô.
Bonsoir.
Ah, parfait. Merci beaucoup d'être en direct avec nous par téléphone. Nous parlons de ce livre Paris, ville invisible, que vous aviez fait avec Bruno Latour en 1998 et qui vient d'être réédité aux éditions B42 avec une nouvelle mise en page. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce livre, que vous nous en parliez. Comment avez-vous collaboré avec Bruno Latour et quel était l'enjeu de ce livre, de cette visite à Paris?
Ben alors, au moment où Bruno a eu le projet de ce livre, il était déjà en train de travailler à travers plusieurs articles sur ce qu'il appelait les tribulations de l'image scientifique, et il s'intéressait beaucoup à utiliser des photos pour étudier comment les sciences et les techniques se faisaient. Et il me disait souvent, parce qu'on travaillait ensemble à l'époque, qu'il aimerait faire un jour carrément un roman photo pour illustrer des points de théorie sociologique, en fait, à travers le texte et l'image. Et au fur et à mesure, ça mûrit, et on a eu la chance d'avoir un éditeur complice dans cette affaire qui nous a permis de travailler vraiment tranquillement pendant au moins une bonne année. Et l'idée, c'était au fond pour lui de résumer un certain nombre de points sociologiques sur lesquels depuis un certain temps il bataillait avec son père notamment, mais de le faire vraiment au travers d'enquêtes autour de quelque chose de très concret qui est la ville de Paris, et en se posant la question qui est apparemment simple comme ça, qui est au fond, c'est quoi le social, comment ça marche une ville avec autant de monde, comment finalement d'utiliser Paris comme un laboratoire pour poser un certain nombre de ces points théoriques qui étaient les siens, et notamment le fait que on n'est pas dans des figures prédéterminées, mais que vraiment à chaque fois, pour chaque objet, il faut reprendre, il faut trouver une prise adéquate afin de comprendre comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, on est dans des parcours comme ça où on suit les objets techniques, bien sûr, mais pas seulement. Tout ce qui fait que à l'époque, on était 4-5 millions, maintenant on est plus en région parisienne, pouvaient vivre ensemble et fonctionner ensemble. Et il se trouve que c'est un livre qui a été réalisé avec une maquette à l'époque assez spectaculaire, parce que il s'agissait de suivre ses rafales de photos. Moi, donc, j'étais photographe pour lui. J'étais pas photographe du tout professionnel. Hein. Il me voyait toujours avec mon appareil photo autour du cou, et il avait su un jour, je lui avais expliqué que j'aimais pas du tout prendre les gens en photo, mais plutôt les objets. Et c'était de là qu'on avait décidé qu'on pouvait travailler ensemble, parce que lui aussi, il allait s'agir de beaucoup d'objets à prendre en photo, et des objets pas très sexy, hein, pas très photogéniques, c'est-à-dire des écrans d'ordinateur, des bordereaux, des tiroirs de bureaux, puisque son intérêt, c'était de voir partout où se compose une totalité de Paris, de pouvoir suivre à la trace comment ça marche. Et donc moi, je devais aller voir, par exemple, les personnes à l'époque de France Télécom, parce qu'il y a quelque chose, c'est qu'en 98, depuis, beaucoup de choses ont changé dans les institutions. Donc il y a des endroits où ce livre a un peu vieilli à ce niveau-là, mais l'éditeur a fait un beau travail à ce niveau-là d'adaptation. Et donc, on est allé voir le téléphone, l'électricité, toutes les choses comme ça qui font qu'on peut vivre à Paris. Et à chaque fois, ça lui donnait l'occasion, lui, de faire un point sociographique bien, bien précis. Oui, et ce livre, donc, avait une énorme mise en page très spéciale qui le rendait, à l'époque, difficile à lire, de l'aveu de beaucoup de lecteurs. Et puis, au bout d'un moment, il a disparu parce qu'il était en rupture de stock. Et Alexandre Dimos, aux éditions B42, a, a eu envie de le rééditer, surtout que c'est un livre qui avait énormément intéressé moins les sociologues au grand âme de Bruno que les architectes, les designers, du fait aussi de son intérêt sur les choses techniques.
Oui, parce que c'est aussi un grand livre sur les réseaux et sur ouais. le collectif. Ça pourrait être c'était la grande interrogation de Bruno Latour, ce l'est encore, mais ce l'était beaucoup à l'époque. C'est quoi le collectif ? Le collectif, au fait, on le collecte comment ? Comment représenter le collectif ? C'est aussi pour ça qu'après, Bruno Latour s'est mis à faire des expositions, à travailler avec les artistes et à être commissaire d'exposition. C'est le collectif, au fait, comment il fait image ?
Oui, et pour chacun de ces collectifs, puisque il n'existe pas un seul collectif, les Parisiens ne forment pas un collectif, par exemple. En revanche, pour chacun des collectifs qui sont des opérateurs de notre vie sociale commune, il faut à chaque fois se déplacer et suivre la façon dont les acteurs eux-mêmes travaillent, composent, leur organisation transforme la matière qu'ils ont entre les mains peu à peu. Par exemple, à un moment donné, il fait un point sur l'économie, en essayant de voir comment on est relié à l'économie, au marché. Et pour ça, il fait toute une démonstration à travers le marché de Rungis. Et on était allé vraiment suivre à la trace le collecteur des prix qui sont pour un fruit donné ou un aliment donné sont tous les jours à refaire, en fait. Et comment de là, de cette ponction très locale, comme ça à Rungis, comment de part en part cette information est distribuée, transformée. Eh bien là, on a à chaque fois, ça dessine des collectifs différents. En fait, ça dessine ce à quoi et par quoi on est attachés les uns aux autres. Et c'est tellement riche et différent pour chaque usage, pour chaque... partie comme ça qu'on allait explorer, qu'à la fin, on n'a jamais une somme totale. Et donc, on n'a jamais cette vue, ce zoom un peu magique que les sciences sociales nous faisaient croire qu'on pouvait avoir une vision surplombante du social des Parisiens. En fait, c'est même la police ne l'a pas, en fait. Elle a une partie, elle a ce que Bruno Latour appelle un oligoptique, mais pas un panoptique, ça c'est des petites choses. Mais qu'en effet, à partir du moment où on s'intéresse vraiment à ça, le monde non pas se vide, mais se remplit de plein de choses. Et en même temps, dit Bruno Latour, on respire parce que on a la main sur la façon dont les collectifs sont composés. Et si on déplie tout ça, alors on a plus d'espace pour composer le collectif et le recomposer. Et ça devient une question politique pour lui.
Alors si je vous pose ces questions sur le collectif, et vous avez parlé de composition des collectifs, c'est parce que vous avez fondé aussi l'association Ding Ding Dong. Et j'aimerais que vous nous parliez de Ding Ding Dong et de ce collectif d'usagers experts et de sa généalogie, puisque dans sa généalogie, il y a Isabelle Stenger, si proche de Bruno Latour, il y a Toby Nathan. Et j'aimerais qu'on déplie cette histoire récente de collectif d'usagers experts.
Alors, c'était en effet, c'est un collectif qui s'est créé en 2006, mais moi... Bien avant, j'avais travaillé, j'ai eu la chance de travailler et aux côtés de Bruno Latour et ensuite aux côtés de Toby Nathan. Et je croisais pas mal Isabelle Stengers, évidemment, à l'occasion de mon travail. Et il se trouve que Isabelle Stengers et Toby Nathan ont été les premiers à s'intéresser de manière très très rapprochée au collectif d'usagers en santé et notamment en santé mentale via Toby Nathan qui est professeur de psychologie et thérapeute, et vraiment leur accorder une importance capitale dans la mesure où finalement ça allait dans le prolongement de ce que racontait Toby Nathan dans ses écrits assez tôt, enfin dans les années 1994-15, etc., que quand on s'intéresse aux personnes parce qu'elles sont dans des situations de fragilité et de souffrance et de maladie, psychique notamment, finalement c'est le patient qui est l'expert et pas forcément le thérapeute, surtout dans les circonstances où il travaillait, Toby Nathan, qui était quasiment tout le temps avec des familles d'origine migrante. Et c'était, il avait vraiment opéré un pas de côté que Stengers avait même qualifié d'événement scientifique à l'époque, était de dire, mais finalement, c'est le patient qui est l'expert, ou plus exactement, c'est le monde du patient. Le monde du patient contient l'expertise sur son mal. Et finalement, notre travail à nous, psychologues, à l'époque, moi j'étais en train de devenir psychologue, c'est de reconstituer là aussi les forces en présence et ce qui peut faire bouger la situation, ce qui peut d'abord l'expliciter, mais ce qui peut la faire bouger. Et finalement, le mal n'est pas forcément dans la personne, mais bien dans son monde. Et du coup, la façon de le soigner existe également dans son monde. Et du coup, c'était intéressé au collectif d'usage en santé en Occident, quoi. Hein, avec cette contre-force que les collectifs comme dans le champ du SIDA, ACT UP notamment, AIDS, etc. Avait vraiment marqué une rupture là aussi, qui avait beaucoup intéressé Stengers, et puis plus tard Nathan, qui était de dire, mais finalement nous aussi on peut participer au savoir qui est composé sur notre maladie, et puis nous on est les experts finalement aussi de notre maladie, donc de changer la combinaison là de la façon dont le savoir était fait, et puis où se plaçait l'autorité. Et Stengers à cet endroit-là s'est vraiment intéressé au collectif d'usagers, notamment de drogue. Elle avait écrit dans les années 90 un petit livre qui est vraiment incroyable encore aujourd'hui à lire, hein, qui s'appelle « Drogue, le défi hollandais » sur la légalisation des drogues en Hollande à l'époque. Et elle avait là découvert énormément les usagers toxicomanes, qui étaient des grands savants de leurs usages, qui ne considéraient pas eux comme une maladie. Et de là, quand il se trouve qu'on a été interpellé autour d'une maladie rare qui s'appelle la maladie de Huntington, qui est une maladie incurable et génétique, et pour laquelle la science peut beaucoup parce qu'elle sait la diagnostiquer même avant même que les symptômes aient démarré. Donc on peut dire que là la médecine a une puissance, mais un pouvoir, mais sans grande puissance, parce que derrière elle sait pas la guérir, cette maladie. Et or c'est une maladie qui entraîne les personnes dans Huntington dans des métamorphoses assez spectaculaires, à la fois de leur manière de se bouger, parce que ça enclenche une corée des mouvements incontrôlés assez spectaculaires, mais aussi des difficultés et des changements cognitifs qui font que la personne pense pas comme tout le monde et ne ressent pas les émotions comme tout le monde. Et là il y avait vraiment une demande d'usagers qui était en détresse parce que ne trouvant pas, il y avait des associations d'usagers hein, qui existaient sur cette maladie, mais qui étaient un petit peu en train de suivre la voie de leur maître, si j'ai envie de dire, qui était la médecine, qui disait en gros il n'y a pas grand chose à faire, enfin vous subissez cette histoire et puis on peut vous donner parfois des neuroleptiques, ce qui n'était pas très sympa parce que les neuroleptiques ça atténue les mouvements incontrôlés, mais ça atténue aussi la vitalité. Et donc il fallait trouver d'autres manières de penser les choses, et en 2006 là on était vraiment prêts pour créer un collectif comme Ding Dang Dong, donc institut de coproduction de savoir sur la maladie de Huntington, qui propose de fabriquer du savoir d'expérience, en fait, hein, avec les usagers qui la vivent, mais aussi avec leurs proches, avec les médecins qui sont eux-mêmes très, très démunis pour faire face à tout ça, et de prendre ça comme un problème commun. Et ça, c'est vraiment aussi l'apport d'Isabelle Stengers, où il s'agit de travailler ensemble sans frayeur à ce qui peut paraître une vie très très altérée, mais que si on la regarde avec les outils des sciences humaines, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à présent, si on les regarde aussi avec les arts plastiques et les pratiques artistiques, ce qui était le cas dans notre collectif, on se met à apprendre beaucoup de choses qui sont des savoirs pertinents en fait pour les usagers, tout simplement parce que ça leur apprend comment composer avec. Et ça, c'est quelque chose que ça a été très très déployée, notamment en santé mentale, par plein d'autres collectifs d'usagers qui sont absolument passionnants, notamment les entendeurs de voix par exemple. Et ça, dès les années aussi 2005-06, il y a eu un colloque là-dessus organisé par Nathan Sengers et tout ça, sur qu'est-ce que les usagers ont à apprendre en fait aux thérapeutes, donc en renversant comme ça le paradigme. Et c'est quelque chose que nous, on continue de prendre pour nous, à essayer de faire en lançant des enquêtes, en menant des enquêtes de notre à notre manière, parce que dans le champ de la médecine, le savoir est tributaire de l'evidence-based médecine qui en fait veut absolument toujours purifier l'anecdotique, tout ce qui sort de la norme, de la norme d'une maladie donnée, en tout cas via les statistiques. Et évidemment, dans le cadre de Huntington, qui est une maladie rare et tout, c'est un formidable aussi laboratoire pour penser une façon différente de faire science pour la médecine. Et au départ, on a été regardés comme des drôles de zigotos, et puis maintenant, on est très pris au sérieux. Et on participe à toutes les commissions de thérapeutique nationale. Et puis, finalement, peu à peu, ça bouge.
Alors, plusieurs livres ont été publiés sous le label Ding Ding Dong, notamment en 2017, « Le chemin des possibles, la maladie de Huntington entre les mains de ses usagers », écrit par vous et Valérie Pillet. Et puis aussi ce livre important, « Manifeste de Ding Ding Dong », publié en 2013. Et à ce propos, je cite le texte, « Cette adresse aux médecins, notamment à propos du test de la maladie, dans le manifeste de Ding Ding Dong est écrit « Le problème n'est pas l'incurabilité d'une Huntington, le problème est votre impardonnable incapacité à saisir ce que vous êtes les seuls à pouvoir manier pour en faire quelque chose de vivant, mais vous n'osez pas. » On comprend bien que, au milieu des années 90 et les années 2000-2010, il y a eu un retournement grâce au collectif d'usagers experts, c'est-à-dire une autre manière de s'adresser à la médecine.
Oui, et c'est là où on retrouve le mot d'événement qui est cher à Isabelle Sengers quand elle observe et elle pense les sciences. C'est que pour elle, un des enjeux très importants dans les sciences, mais aussi dans les médecines aussi qui cherchent à faire science, et elle avait pris aussi l'exemple de la psychanalyse à un moment donné là-dessus, c'est vraiment de se laisser perturber. C'est que la science doit vraiment se laisser perturber par ce qu'elle observe. Et c'est évidemment compliqué pour... c'est pas si compliqué pour la biologie ou quoi, parce que là, à ce moment-là, les microbes peuvent être récalcitrants facilement aussi à ce qu'on leur impose comme dispositif. Enfin, ils peuvent répondre ou pas, ou répondre pas comme prévu, etc. Mais quand il s'agit d'humains, les bouches étaient bien plus cousues, quoi, par l'autorité médicale. En gros, enfin, tout le monde a fait cette expérience d'aller avoir un diagnostic pas forcément gravissime, hein, mais d'être pris comme une matière non susceptible de récalcitrance par le médecin en face de soi. Et donc, on peut pas. Pourquoi on est à ce moment-là très timide, c'est parce qu'on est seul face au médecin et qu'on sent presque inconsciemment une espèce de quelque chose qui est dissymétrique, quoi, une des forces en présence derrière le médecin que nous on n'a pas, quoi. Et les collectifs ont mis ça en avant. Même aujourd'hui, vous portez un t-shirt d'ACT UP pour aller chez le gynéco, ça change tout, hein. Tout de suite, on ne vous parle pas pareil, par exemple. Parce que ça veut dire qu'on est relié, qu'on est attaché à d'autres, etc. Et dans le cadre de Huntington, il y avait en effet cette double peine qui était que, pas de guérison, certes, mais quand même devoir s'aligner à une forme très normée de vie avec cette maladie, essayer d'être le plus sage possible, etc. En fait, en gros, suivre le chemin tout tracé du deuil de sa normalité, qui est le chemin tout tracé par la psychologie. Et or, nous, on disait, mais c'est pas du tout de la psychologie là dont on a besoin quand on est touché par ce genre de choses. C'est vraiment de penser comme un véritable objet nouveau. Peut-être se dire, finalement, on ne sait pas grand-chose sur cette maladie. Apprenons à chaque fois qu'une personne vient contredire ce que les articles disent, apprenons de tout ce savoir dit anecdotique, mais qui en réalité forme la chair quoi, de la vie avec ce genre de choses, et même de la vie intéressante. Non pas, on n'en fait pas du tout une sublimation, que c'est la belle vie hein, d'avoir une Huntington, mais c'est pas une vie intéressante, et c'est surtout pas une vie qui est indigne, parce que très souvent, qui dit maladie neuroévolutive dit perte d'autonomie au bout d'un moment, et donc dans notre monde ultra-rationnel, enfin, voilà, qui prône l'autonomie comme principe premier de l'humain digne, évidemment, on a un devenir non digne avec une maladie comme Huntington. Donc vous voyez, on a beaucoup de chantiers qu'on mène peu à peu les uns... avec les autres et peu à peu avec d'autres aussi usagers, d'autres pathologies qui nous aident à penser ces histoires.
Alors, on comprend à vous entendre, Émilie Hermant, qu'il y a eu un rôle important de jouer dans le centre Georges de Vereux, fondé par Toby Nathan, et donc ce centre d'ethnopsychiatrie, c'est là où vous avez beaucoup appris, et on comprend bien qu'il y a, un fil comme ça qui s'est noué entre Toby Nathan, praticien, Isabelle Stengers, la philosophe, Isabelle Stengers qui donne l'injonction à Bruno Latour d'aller faire un stage d'un an auprès de Toby Nathan. Et d'ailleurs, Bruno Latour en a fait ce grand livre sur le culte moderne des dieux fétiches. Et d'ailleurs, ce livre, il vous est dédié. Bruno Latour vous l'a dédié à vous et à Valérie Pillet. Donc, si bien que là, pour cette interview ensemble, je tiens dans la main droite Paris, ville invisible, Bruno Latour, Émilie Hermant, dans la main gauche sur le culte moderne des dieux fétiches. Or, ces deux livres qui sont assez peu lus, même très peu étudiés de Bruno Latour. Bruno Latour est étudié pour d'autres livres, mais ces deux-là, en tout cas, généralement, soit il y a un désintérêt, soit ils font peur. Sur le culte moderne des dieux fétiches est un livre tellement ambitieux et fou qu'il peut faire peur à nombre de chercheurs qui n'osent pas l'explorer ou en tout cas le continuer. Or là, vous étiez au centre, parce que c'est-à-dire que on n'a pas dit qu'Isabelle Stengers c'était la marraine de Ding, Ding Dong, vous êtes très très proche d'elle, vous êtes très proche de Bruno Latour et vous avez travaillé au centre Georges de Vereux d'ethnopsychiatrie de Toby Nathan, donc vous étiez à la croisée des chemins, c'est vous qui avez tout vu.
Alors, en tout cas, ce qui est très joli dans cette histoire, c'est que, en effet, j'assistais à tout. Moi, je travaillais le matin pour Bruno Latour et l'après-midi pour Toby Nathan. Alors, ça faisait beaucoup, beaucoup de transport parce que Paris 8, à l'époque, n'était pas joignable en RER. Enfin, bref, donc, c'était absolument passionnant. Et c'est autour de cet aller-retour que Bruno a eu la gentillesse de me dédier le livre. Et de fait, à ce moment-là, je ne sais plus très bien si c'est Isabelle Stengers ou c'est Philippe Pignard, mais je pense que vous avez raison, que c'est Isabelle Stengers qui lui a dit vraiment à Bruno Latour, qui était en train de faire toute son anthropologie des modernes, quoi, lui a dit il faut que tu ailles voir ce que fait Toby Nathan, qui venait de publier L'influence qui guérit, qui est un livre très important, qui tranche dans l'œuvre de Toby, qui était au départ plus complémentariste. Il se disait encore psychanalyste jusqu'à l'influence qui guérit, où là, finalement, il dit, la psychanalyse rejoint les autres thérapies parmi toutes les thérapies. Il n'y en a pas une qui est, il n'y a pas une psychologie qui va supplanter les autres. Elles sont toutes, à chaque fois, ancrées dans un monde bien, bien précis et elles s'adressent aux personnes qui habitent ce monde. Et donc, la psychanalyse n'échappe pas à cette règle-là. Et là, c'est vrai que ça a dû faire tilt dans l'esprit d'Isabelle Stengers, qui était complètement dans des choses comme ça aussi, de son côté, et aussi pour Bruno Latour, qui cherchait à s'intéresser depuis un certain temps au moderne et en tant qu'anthropologue. Et du coup, il est venu en effet pendant un an et même pendant trois mois à temps complet, et puis pendant un an seulement une fois par semaine, si je me souviens bien. Il a assisté à toutes les consultations et il en a tiré ce petit livre, qui est un livre qu'il a surpris lui-même. Hein. Je crois qu'il ne pensait pas faire un livre aussi complexe. Il est court, mais très compact, pas du tout simple à comprendre, avec des éclairs, mais aussi avec des choses plus compliquées. Et où il parle finalement de ce qu'il a vu assez tard dans le livre. Et donc moi c'était à l'époque j'étais pas dans la salle j'étais pas encore psy donc j'étais plutôt dans les couloirs à organiser tout ça mais je le voyais sortir très décoiffé très très intéressé passionné par ce qui se passait à l'intérieur et ça a engagé un dialogue à trois, entre autres, parce qu'il y avait aussi tous les collègues chercheurs de Toby Nathan, etc. Mais, et des discussions qui n'en finissaient pas jusqu'à des textes en commun, des livres en commun. Enfin, il y a eu ce livre Médecins et sorciers avec Isabelle Stengers et Toby Nathan, et qui a été réédité vers les années 2010-15 avec d'autres textes très très intéressants et très importants pour la Fondation de Ding Dang Dong quelque part, qui sont sur comment travailler avec les collectifs d'usagers, comment faire science avec eux, etc. De manière très explicite. Elle ne parle pas du tout encore de la maladie de Huntington et rien, mais finalement découle de ces lectures toute une série de réquisites, quoi, de comment s'y prendre, non pas uniquement en critiquant, et ça, ils se rejoignaient tous, hein, la critique, la pensée critique était pas, commençait à être très stérilisante, et plutôt à chaque fois penser en termes de pratique, quelles propositions de dispositifs on peut ouvrir pour qu'on puisse s'entendre et se parler. Et Nathan était vraiment le chef des dispositifs, vous dites praticien, c'était tout à fait le cas, théoricien aussi à partir de ces dispositifs, c'est-à-dire de sa consultation d'ethnopsychiatrie qu'il a très très bien décrit et qui était en soi un objet, était un instrument scientifique, quoi, dans le sens d'Isabelle Stengers. Et donc c'était très intéressant de voir des personnes comme la Tour venir observer tout ça et être transformées par ça.
Merci beaucoup, Émilie Armand, d'avoir été au téléphone avec nous pour nous parler de cela. Merci à vous.
Merci à vous. Très belle soirée.
Merci.